C'est l'heure du journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Hervé, bonjour à tous. Depuis cette nuit, le divorce est consommé entre Londres et l'Union européenne. Le Royaume-Uni et l'UE se quittent avec un accord commercial post-Brexit. Doit-on s'attendre à une situation chaotique à la frontière avec les routiers? Faut-il redouter des conséquences économiques en France? Nous verrons cela avec Louise Baudet et Annabelle Grelier des deux côtés de la Manche.
Emmanuel Macron a présenté hier ses vœux aux Français. Le président a cité plusieurs citoyens pour leur engagement dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Nous reviendrons sur cette allocution à part dans la tradition des vœux présidentiels.
Le gouvernement accusé d'être trop lent dans sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé hier une accélération du programme.
C'est l'une des nouveautés du 1er janvier, l'indice de réparabilité, un concept que nous allons vous expliquer dans ce journal.
Enfin, nous irons à Vienne, en Autriche, où le traditionnel concert du Nouvel An de l'Orchestre Philharmonique se fera aujourd'hui sans public, c'est une première. Et après ce journal, Stéphane Robert, dans son billet politique, dressera comme chaque matin cette semaine l'état de santé d'un parti, aujourd'hui la France insoumise.
Ça va être le chaos. Beaucoup d'entreprises ne sont pas encore tout à fait sûres de ce qu'il faut précisément faire. Ça va se terminer avec des camions absolument partout.
L'inquiétude de Mandy Rossi, élue écologiste à Ashford, dans le Kent, porte d'entrée du Royaume-Uni. Elle craint de voir des camions stationnés partout et pas que sur les aires prévues à cet effet. Maintenant que le Royaume-Uni a véritablement quitté l'Union européenne, son marché unique et l'Union douanière. La période de transition en vigueur en 2020 est terminée depuis cette nuit. Ce divorce pourrait s'accompagner de grosses difficultés à la frontière, avec le retour notamment des contrôles sanitaires, à l'image du chaos provoqué la semaine dernière par l'obligation pour les routiers de se faire tester avant de revenir en France. Louise Baudet, vous êtes sur place, bonjour.
Bonjour.
Pour l'heure, tout est calme, avant peut-être la tempête.
Mais écoutez, oui, jusqu'ici, tout va bien. Les entreprises des deux côtés de la Manche ont-elles voulu éviter à leurs chauffeurs une nouvelle nuit loin de leur foyer? Ont-elles différé les livraisons, histoire d'éviter le Big Bang redouté? En tout cas, il n'y a pas de bouchons aux abords de l'entrée du tunnel et sur le port de Douvres. Un vrai premier de l'an, en somme. Il faut dire que les marchandises affrétées avant le 31 décembre ne sont pas soumises aux nouveaux contrôles. Ça n'a donc pas vraiment démarré cette nuit. Et puis, le Royaume-Uni a prévenu, il ne sera pas tatillon. Façon de rejeter par avance sur le continent la responsabilité d'une éventuelle congestion. À entendre les autorités britanniques, tout est prêt pour ne pas revivre le cauchemar de Noël. Un permis d'accès au comté du Kent a été mis en place avec code couleur et appli dédié pour bloquer en amont les camions qui ne seraient pas en règle. Trois zones de délestage sont par ailleurs prévues dans la région, offrant 3400 places, notamment sur l'aéroport désaffecté de Manston, où les routiers peuvent aussi se faire tester. Mais tout cela est-il vraiment opérationnel? Et surtout, les entreprises britanniques sont-elles prête? De l'aveu même des syndicats de transporteurs routiers, ce n'est pas le cas. Et en amont de Douvres et du tunnel sous la Manche, l'arrière-pays s'inquiète de voir de nouveau déferler sur lui une armée de poids lourds, transformant en immense parking le jardin de l'Angleterre.
Louise Baudet avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro dans le Kent pour France Culture. Désormais, la relation commerciale entre Londres et l'UE est basée sur un accord post-Brexit de plus de 1000 pages signé mercredi et trouvé la semaine dernière. Faut-il craindre des conséquences économiques pour la France? Élément de réponse avec Annabelle Grelier.
Déjà, de par sa situation géographique, la France est évidemment plus à risque. Elle est le pays voisin direct du Royaume-Uni, la porte d'entrée vers le continent. 80% des flux commerciaux britanniques transitent par le territoire français, un passage obligé qui sera désormais beaucoup moins fluide, ralenti par les contrôles douaniers réglementaires. Qui dit moins fluide, dit plus lent, et toutes les chaînes de production intégrées, notamment dans le secteur de l'automobile, qui fonctionnent sur le mode just-in-time, ce procédé industriel qui s'appuie sur l'acheminement rapide et précis des pièces détachées provenant des usines aux quatre coins de l'Europe, eh bien les chaînes de production vont forcément en pâtir. Le secteur de l'aéronautique va devoir également s'adapter, sans parler de l'agroalimentaire qui devra absorber le surcoût des contrôles vétérinaires et phytosanitaires. Et comme la France exporte plus qu'elle n'importe vers le Royaume-Uni, elle a donc plus à perdre. Pas de catastrophisme toutefois du côté de Bercy, qui estime qu'au pire, on peut s'attendre à une perte de l'ordre de 0,1% du PIB, quand la Banque de France, estimée dans ses dernières prévisions, que l'accord trouvé pourrait avoir même un impact positif de 0,2 point de PIB pour l'économie hexagonale en 2021. La vérité, c'est que personne ne peut réellement prédire quelles seront les conséquences du Brexit pour l'économie, et bien difficile de savoir où iront à l'avenir les investissements et les flux financiers quand la City de Londres se retrouvera plongée dans la situation inédite de perdre son passeport européen.
Annabelle Grelier.
France Culture, 8h05, la suite du journal Margot Delpierre. Notre destin est d'abord en Europe, a rappelé de son côté Emmanuel Macron. Le président de la République a présenté hier soir ses vœux aux Français pour la nouvelle année.
Celle qui vient de s'écouler a été particulièrement difficile avec cette crise sanitaire inédite. La pandémie de Covid-19 a bouleversé nos quotidiens, nos habitudes, souvent, et provoqué la mort de 64 000 Français selon les autorités. L'heure n'est donc pas à la fête et les jours meilleurs ne sont pas pour janvier. Mais il y a de la lumière au bout du tunnel et c'est pour bientôt, a assuré le président. Il espère une amélioration au printemps, Sophie Delpont.
Oui, le chef de l'État a voulu donner une perspective pour la sortie de crise vers un nouveau matin français, selon ses mots.
Les premiers mois de l'année seront difficiles. Et au moins jusqu'au printemps, l'épidémie pèsera encore beaucoup sur la vie de notre pays.
Mais c'est le mot espoir que le chef de l'État aura le plus prononcé dans ses vœux, pas moins de 6 fois.
L'espoir est là. L'espoir est là, dans ce vaccin que le génie humain a fait advenir en un an seulement. C'était impensable il y a encore quelques mois.
Emmanuel Macron a promis de ne laisser aucune lenteur injustifiée s'installer dans ce processus de vaccination, alors que l'exécutif est sous le feu des critiques de l'opposition sur le sujet. Pas de mea culpa non plus sur la gestion de la crise sanitaire. Au contraire, nous avons fait les bons choix au bon moment, a déclaré le chef de l'État. Emmanuel Macron a ensuite longuement remercié les Français pour leur sacrifice, en énonçant les prénoms de personnes qui se sont engagées dans la lutte contre la pandémie.
Marie Corentine a 24 ans. Au printemps dernier, cette infirmière fraîchement diplômée, originaire de Limoges, n'a pas hésité à tout quitter pour prêter main forte aux équipes de l'hôpital de Créteil débordées par l'afflux des malades du virus.
Un souci d'empathie du chef de l'État. Pour l'année qui vient, pas un mot sur la réforme des retraites qui était au cœur des vœux l'année dernière. Pourtant, pour se projeter sur cette nouvelle année, le chef de l'État a préféré mettre l'accent notamment sur les prochains textes issus de la Convention citoyenne pour le climat.
Et juste avant ses vœux présidentiels, le ministre de la Santé a annoncé une accélération de la campagne de vaccination française. Olivier Véran semble ainsi répondre à ceux qui déplorent la lenteur du plan. La France a pour le moment vacciné beaucoup moins de personnes que ses voisins allemands et britanniques, Tara Schlegel.
Sentant probablement l'inquiétude monter, c'est via Twitter que le ministre de la Santé a rapidement annoncé que la France allait permettre aux soignants de se vacciner très bientôt. On avait entendu le médiatique Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer, appeler à vacciner ceux qui seront en première ligne et qui seront encore plus indispensables si le variant britannique venait à pénétrer en France. Or, désormais 2 cas sont officiellement recensés. D'autres élus avaient emboîté le pas aux généticiens. Olivier Véran les a donc entendus, tweetant que les soignants de plus de 50 ans pourront, dès lundi, il va donc falloir encore attendre 3 jours, se faire vacciner contre le nouveau coronavirus. « Soyez assurés », indique toujours le ministre, « la France sait bien organiser une vaccination de masse ». Et allant à l'encontre de la communication précédente du gouvernement, il évoque aussi désormais des centres de vaccination qui ouvriront en ville, sans utiliser le terme de vaccinodrome, qui peut peut-être paraître un peu péjoratif, mais qu'Olivier Véran avait utilisé sur France 2, mardi, pour en rejeter justement l'idée. On parlera donc plutôt pour l'instant de centre, sachant qu'il va encore falloir attendre avant début février, dit le ministre, la mise en place de tels espaces. La date est donc à la fois lointaine et floue, quand l'Allemagne, il faut bien le rappeler, a déjà installé depuis des mois ces centres qui ont vacciné plus de 18 000 personnes.
Les députés LR réclament une audition en urgence d'Olivier Véran. Ils veulent l'entendre sur la stratégie vaccinale du pays. La France vaccine 10 000 fois moins vite que l'Angleterre, estime le chef de file des députés LR, Damien Abad et Éric Ciotti. Depuis leur courrier daté de mercredi, Emmanuel Macron a donc présenté ses vœux. Un discours qui n'a pas convaincu Gilles Carrez, autre député Les Républicains. Pour lui, l'énumération dans son allocution des prénoms de 9 Français qui se sont illustrés en 2020 a dissimulé un manque de perspective.
L'incantation aux vertus du pays, la solidarité, le courage, bon, tout ça est exact, mais cette forme d'incantation m'a mis un peu mal à l'aise parce que derrière, finalement, ça revenait à une sorte d'autosatisfaction de sa part. dissimuler une autosatisfaction, parce qu'il n'y a pas eu la moindre autocritique sur la politique qui a été conduite pendant cette année 2020, il le dissimulait derrière l'énumération de toutes les vertus dont on fait preuve, c'est-à-dire exact, les Français, avec tous ces exemples. Mais on reste sur sa fin, sur les grandes orientations politiques, les grandes décisions qu'il sera conduit à prendre en 2021.
Et pour rendre hommage à ceux qui luttent contre le Covid-19, des centaines de personnes recevront la Légion d'honneur aujourd'hui. Sur un total de 3800 personnes décorées, plus de la moitié le sont pour avoir lutté, souvent dans l'ombre, contre cette épidémie. Médecins, directeurs d'hôpital, épidémiologistes, infirmières, entre autres. 40 personnes décédées du Covid dans l'exercice de leurs fonctions sont également décorées à titre posthume. Il s'agit principalement de personnel hospitalier et de médecins. Nous sommes donc le 1er janvier 2021 et cette année, comme les précédentes, apporte son lot de changements. Citons par exemple l'apparition d'un indice de réparabilité. Il s'applique aux produits électriques et électroniques, smartphones, ordinateurs portables, téléviseurs. L'indice donne une note sur 10 pour évaluer le degré de réparabilité de l'objet. Explication de Véronique Rebérotte.
La logique est la même que l'étiquette énergie, mais là c'est une pastille ornée d'une clé et d'un boulon, du rouge foncé au vert, avec une note de 1 à 10 qui informera le consommateur du degré de réparabilité du produit acheté. Raphaël Guestavi, chef de service produit efficacité à l'ADEME, agence de la transition écologique.
Cette note sur 10, elle va permettre de savoir si le produit est réparable facilement ou pas, et surtout permettra de comparer entre deux produits équivalents, lequel sera finalement le plus réparable. Donc ça va être des critères qui vont concerner la disponibilité des pièces détachées, la facilité de démontage du produit ou encore la disponibilité de la documentation. Il y a également un critère sur le prix, notamment pondérer le prix de la pièce détachée par rapport au prix du neuf. Et donc des produits qui vont être plutôt haut de gamme pourraient très bien avoir une note moyenne parce que pas conçus pour être facilement réparables. À l'inverse, on pourrait avoir des produits d'entrée de gamme, qui eux pourraient être très facilement réparables, mais c'est pas pour autant une garantie qu'ils vont durer dans le temps si on ne les répare pas.
Car il s'agit bien de changer nos habitudes de consommation et de discipliner les fabricants en les incitant à rechercher la meilleure notation possible. Raphaël Guestavi.
On a une double entrée, à la fois pour les consommateurs, aller vers un changement de comportement, de faire durer le plus longtemps la durée d'usage des produits, et puis pour les fabricants, les inciter à développer des produits qui soient de plus en plus réparables, et donc avoir l'ensemble de la société qui aille vers l'allongement de la durée d'usage des produits.
L'indice de réparabilité sera aussi présent sur les sites de vente en ligne.
Parmi les autres changements du 1er janvier, une hausse très limitée du SMIC, 0,99%, soit 12 euros net de plus par mois pour atteindre 1230 euros net mensuels. Et la taxe d'habitation va commencer à diminuer de 30% pour les 20% de ménages les plus aisés. C'est aussi un incontournable dans le calendrier. À cette date, l'Orchestre Philharmonique de Vienne, en Autriche, donne un concert du Nouvel An en public. Mais pour la première fois dans l'histoire du Musikverein, il n'y aura personne dans la salle. Le diffuseur autrichien a donc décidé d'innover en cette crise sanitaire. Un dispositif enregistrera les applaudissements de certains spectateurs dans le monde entier pour ensuite les diffuser dans la salle. À Vienne, Isorias.
Pour la première fois de son histoire, la salle du Musikverein sera vide lors du concert du Nouvel An, dirigée cette année par Riccardo Muti. Mais pour le chef d'orchestre italien, l'essentiel est de pouvoir jouer.
Le Musikverein sans musique, un 1er janvier, ressemblerait à une tombe. Ce serait un terrible signal envoyé au monde entier. Même si le public ne sera pas dans la salle, mais disséminé partout dans le monde, c'est important de jouer. Ce n'est pas simplement un moment de musique magnifique, c'est aussi un message d'espoir.
L'ORF, le diffuseur autrichien du concert, a conçu avec une entreprise un dispositif permettant aux spectateurs préalablement inscrits d'enregistrer leurs applaudissements chez eux durant le concert afin qu'ils soient diffusés dans la salle. Alexander Frabetz, directeur de l'ORF.
Au départ, on pensait faire participer 2000 personnes à cette opération car c'est la capacité du Musikverein. Mais plusieurs milliers de personnes ont demandé à participer. Nous avons finalement dû clôturer à 7000 inscrits. Il y a un réel enthousiasme et énormément de personnes qui veulent faire entendre leurs applaudissements. Ce sera donc le cas.
Le concert du Nouvel An sera diffusé dans 90 pays à travers le monde.
Le reportage d'Isorias. En France, le temps sera très gris dans la moitié est, meilleur dans l'ouest avec des éclaircies. 5 départements sont en vigilance orange, l'Isère et la Drôme pour neige et verglas, les Landes, le Gers et le Tarn-et-Garonne pour des risques de crues. Météo France prévoit 1 degré seulement cet après-midi à Nancy, 3 à Paris et Rennes, 4 à Calais, 6 à Bordeaux et jusqu'à 9 degrés à Marseille, Hervé Gardette.
Merci Margot Delpierre. Est-ce que vous voulez un aperçu des programmes de ces matins jusqu'à 9h? Juste avant 9h, nous appellerons Macha Makeyev, la directrice de la CRIE, la scène nationale de Marseille, pour lui demander comment va son théâtre et comment va le théâtre en général. Un peu avant cela, Géraldine Mosnès-Savoie nous livrera son premier carnet de philo de l'année. Dans 5 minutes, nous allons retrouver nos deux invités, Éric Birloez, qui est sociologue, et Valérie Chansigaud, qui est historienne. Ils nous parlent de la domestication animale et végétale et nous allons évoquer avec eux les grands enjeux liés à notre alimentation, et puis dans un instant, le billet politique de Stéphane Robert.